Salut à toi, auditeur, auditrice de PFM. Tout de suite, Info 30, magazine d'information locale, libre et sans pub. Nous allons parler de l'Indonésie aujourd'hui avec Daniel Cassoré, président du Cercle de la Bibliothèque de Dainville. Il organise avec Odile Cassoré une exposition et proposeront un film sur l'Indonésie. Deux séances pour ce film à 14h30 et 20h30, salle Montesquieu, juste à côté de la poste de Dainville. Bonjour Daniel Cassoré.
Bonjour Bernard.
Pourquoi êtes-vous retourné en Indonésie après 18 ans ?
Nous y étions allés découvrir ce pays en 1994, mais l'Indonésie c'est grand comme l'Europe, c'est 17 500 îles, donc je crois qu'on peut y retourner 15 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois, on n'aura jamais fait le tour de l'Indonésie, donc on avait envie d'aller découvrir d'autres îles d'Indonésie, et puis aussi d'y retourner, parce que voir quelle était sur 16 ans d'écart, quelle était l'évolution des coutumes, des traditions, bref, de la vie dans ces pays qui sont presque ceux du bout du monde.
Comment s'organise donc un tel parcours quand on sait qu'il y a 17 500 îles ?
Alors effectivement, le choix peut être difficile. Bon, pour nous, il y a les grandes îles Java, Sumatra, Bornéo, Sulawesi, Bali, qui sont celles qui sont les plus connues et où il y a des tas de choses intéressantes à faire. Et puis, depuis longtemps, personnellement, j'avais envie d'aller dans ce qu'on appelle les petites îles de la Sonde, qui sont complètement à l'est de l'Indonésie, mais qui étaient encore jusqu'il y a quelques années très peu accessibles, sauf à trouver des bateaux de pêcheurs dans des conditions presque d'explorateurs. Donc comme elles sont maintenant devenues plus accessibles puisqu'on trouve des avions qui s'y rendent au moins une ou deux fois par semaine, nous avons donc décidé de retourner dans certaines des îles que nous avions vues pour voir l'évolution et puis d'aller aussi dans ces îles beaucoup plus éloignées, beaucoup moins touristiques pour découvrir d'autres choses.
18 ans sont passés depuis le dernier voyage. Quels sont les changements qu'on peut constater en 18 ans en Indonésie ?
Ah, effectivement, il y a d'une part des choses qui ont beaucoup changé, puis d'autres qui n'ont pas bougé du tout. Si l'on parle de la vie quotidienne, énormément de changements. Il y a donc maintenant 18 ans, dans les rues, tout le monde est habillé en sarong, en tenue traditionnelle. On voyait beaucoup de vélos, de betsak ou de tuk-tuk, comme on les appelle par là, ces espèces de taxis à vélo. Et par contre, il n'y avait quasiment pas de motorisation. Alors que maintenant, ce qui frappe dans les rues des capitales, que ce soit à Sumatra, Bali ou à Sulawesi, c'est le nombre de motos, le nombre de voitures, et puis les tenues occidentales, et le jean a fait sa conquête de l'Indonésie également. Par contre, s'agissant des coutumes, des traditions, rien n'a changé. Ce qui nous expose à des choses assez cocasses, pour vous citer un exemple, nous étions sur l'île des Célèbres, à Sulawesi, dans une cérémonie mortuaire qui est tout à fait extraordinaire. Vous en verrez des images dans le film, enfin quelques images, où on sacrifie des animaux en quantité, où les rites sont totalement séculaires et se maintiennent de génération en génération, sous peine d'ailleurs d'être exclus du clan. Et nous étions accueillis par une famille, une maman et sa fille, charmantes, qui nous offraient le thé pendant qu'on regardait les cérémonies. Et bien, pendant ce temps-là, avec cette fille, j'ai changé mon adresse internet. Cette fille me dit « je suis sur Facebook ». Donc c'était vraiment curieux, on avait l'impression d'assister à une cérémonie du Moyen-Âge, et puis à côté de ça, il y a Facebook et Internet. Donc voilà les deux extrêmes, l'un qui a totalement évolué la vie quotidienne, l'autre qui ne bouge pas, mais alors pas du tout, les traditions, les coutumes demeurent.
Dans votre voyage, comment se passe la rencontre avec les habitants du pays ?
En général, et même toujours, on est très très bien accueillis dans les maisons, dans les assemblées où on va. On a même eu l'occasion sur l'île de Sumba d'assister à des cérémonies rituelles au milieu de la nuit avec un chaman, mais sans aucun aucun problème. On est accueilli vraiment, tant qu'on ne dérange pas, qu'on respecte les coutumes, qu'on respecte les traditions, bien évidemment, on est très très bien accueilli. Mais il faut dire aussi qu'on se fait accompagner d'un guide qui nous sert d'interprète, sinon effectivement la communication serait très difficile. Très peu de ces gens parlent l'anglais, le français, n'en parlons pas.
Vous ne suivez pas non plus un parcours touristique classique. Vous avez une manière aussi d'organiser votre voyage qui est différent peut-être.
C'est-à-dire qu'avant de partir, merci Internet, merci les forums de voyageurs, on s'informe sur ce qu'il y a de plus intéressant pour nous, bien évidemment. Pour nous, dans l'occurrence, c'est un voyage, c'est pas des vacances, donc c'est pas les plages, parce qu'il y a de merveilleuses plages, c'est pas les grands hôtels, parce que d'abord, ils n'existent pas dans les petites îles, c'est effectivement aller à la rencontre de la faune, aller à la rencontre des populations, de voir comment on vit, comment on cultive, comment les animaux vivent, comment ils se maintiennent dans des zones qui sont de moins en moins sauvages, etc., etc.
Le pays, lui, a-t-il changé au niveau de la nature, du regard que vous avez depuis votre dernier voyage ?
Alors, l'Indonésie, en particulier dans deux de ces îles, à Bornéo et à Sumatra, nous ne sommes pas allés à Bornéo, mais nous sommes allés à Sumatra, effectivement, change, mais pas dans le bon sens au plan géographique, puisqu'il y a une énorme déforestation, tout cela au profit de, pour un profit immédiat d'abord, qui est celui de la culture des palmiers à huile pour faire de l'huile de palme. Et puis au détriment donc de la faune, puisque les orang-outans sont en péril, mais pas seulement les orang-outans, les tigres, les rhinocéros, les éléphants de Sumatra sont en péril parce qu'on déforeste à une allure record, tout cela pour cultiver du palmier à l'huile, qui, excusez-moi l'expression, une cochonnerie que nous retrouvons en Occident dans toute notre alimentation.
Alors quelles ont été pour vous les rencontres importantes au cours de ce voyage ?
D'abord géographiquement, on est allé sur le site à Sumatra de ce qui a été la plus grande explosion volcanique qu'ait connue la Terre. Il y a, je ne sais plus combien, 70 ou 80 000 ans, je n'en ai plus à une année près, une explosion qui a été tellement énorme qu'elle a modifié le climat de la planète, qu'elle a fait disparaître des quantités d'espèces animales et qui a réduit la population humaine à quelques centaines de milliers d'habitants. Maintenant, à la place de ce cratère de volcan, il y a un lac qui s'appelle le lac Toba. Et on a peine à imaginer, quand on voit ces berges fleuries ou cultivées par, où on cultive des caféiers, des piments, qu'il y a quelques dizaines de milliers d'années, s'est passé là une explosion horrible.
Et justement, on peut voir des belles photos que vous avez mises en ligne sur Internet de ce volcan.
Absolument, Bernard. Oui, tout à fait, sur Internet. Et puis ces photos également à l'exposition à la bibliothèque de Dainville. L'exposition est ouverte depuis lundi. Photos, panneaux didactiques, albums. Vous pourrez, aux heures d'ouverture de la bibliothèque de Dainville, vous pouvez effectivement aller consulter, voir et j'espère admirer toutes ces photos.
Alors au niveau économique, comment ça se passe là-bas au niveau de l'Indonésie, puisque ça a l'air d'être un endroit aussi en plein développement?
Oui, l'Indonésie effectivement fait partie des pays en voie de développement et se développe très vite. Il a un PNB, l'Indonésie a un PNB qui grimpe très fort par rapport aux pays européens, mais bon, c'est normal, ce sont des pays qui se développent totalement. Avec, il y a beaucoup de richesses en Indonésie. Là, je ne parle pas du riz qui est essentiellement cultivé pour la consommation des Indonésiens, mais toutes les ressources minières sont énormes. Et puis les produits fabriqués également, il y a des délocalisations qui se passent aussi en Indonésie. Donc tout cela font que l'Indonésie a un fort développement économique, bien évidemment beaucoup plus sur l'île de Java, sur Sumatra, sur Bali qui est à peine maintenant une île indonésienne, sauf pour ses coutumes religieuses, mais qui est très très européenne. européanisé.
Comment se passe l'unité d'un tel pays quand on possède plus de 17 500 îles ?
Alors l'unité, c'est un paradoxe. Moi je dirais l'unité dans la diversité. L'Indonésie est le premier pays musulman au monde par le nombre de ses pratiquants. Il y a quand même entre 240 et 250 millions d'habitants en Indonésie. C'est grand comme l'Europe. Et le premier pays musulman au monde, mais il y a à côté de ça des animistes, il y a des hindouistes, je parle de Bali par exemple, il y a des catholiques sur des petites îles comme à Flores par exemple, on trouve des monastères de prêtres catholiques, et tout cela cohabite dans une exceptionnelle harmonie qu'on retrouve, je crois, rarement dans d'autres parties du monde. La religion est un fait obligatoire puisque sur sa carte d'identité de chaque Indonésien doit figurer sa religion.
Est-ce que vous avez choisi le moment pour aller faire ce voyage est-ce que le climat est très variable en fonction de la période que l'on choisit de voyager là-bas ?
Oui, effectivement. La première chose quand on va en Asie, c'est d'éviter la période de la mousson. Parce que la mousson, c'est horrible. C'est des pluies énormes, quotidiennes, et qui font que, même s'il fait pas froid, on peut rester dehors sous la pluie. On peut quasiment rien faire. Et quand il faut randonner dans la jungle et qu'il pleut sans arrêt, c'est relativement désagréable. Donc c'est en dehors de la mousson. Et puis en dehors des grands flots touristiques, évidemment, on évite juin, juillet, août et septembre. Voilà pourquoi nous sommes partis en octobre, si je ne dis pas de bêtises.
Le film sera diffusé donc prochainement à Dainville, ainsi que l'exposition qui sera proposée à la bibliothèque. On peut rappeler la date de diffusion du film ?
Tout à fait. Alors, donc, l'expo, on l'a dit tout à l'heure, c'est déjà en cours à la bibliothèque de Dainville, rue d'Arras, au premier carrefour giratoire du centre de Dainville. Pour le film, c'est à la salle Montesquieu, c'est juste à côté de la poste de Dainville. Ce sera le vendredi 13 avril avec deux séances, une séance à 14h30 et une séance à 20h30. Faut-il rappeler que l'entrée est gratuite ?
Eh bien, merci d'être passé à Radio PFM.
Merci Bernard et merci Radio PFM.